Monde en direct.
18h18, ce 4 juin, c'est une nouvelle journée de colère pour les profs et les élèves.
Platini, casse-toi, l'école publique est pas à toi. Platini, casse-toi, l'école publique est pas à toi.
Ces cris, c'était ce matin dans une école en région bruxelloise.
Et depuis la mi-journée, enseignants, étudiants, élèves sont en nombre devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est là que doit avoir lieu le vote en séance plénière du décret programme, un texte qui reprend les économies et les réformes dans l'enseignement.
Les syndicats qui ont déjà prévenu que la colère va continuer. Et tout à l'heure, la ministre de l'Enseignement, Valérie Gilatini, a tenté une nouvelle fois de jouer la carte de l'apaisement. Elle a notamment voulu rassurer les enseignants qui ne sont pas nommés et qui risque de perdre des heures.
L'enseignant temporaire qui aurait peur de perdre des heures parce qu'une personne nommée passe de 20 à 22 périodes et donc lui prend ses heures, si au terme du mécanisme de réaffectation, il avait perdu ses heures, eh bien on va geler la situation jusqu'à la fin de l'année prochaine pour qu'il ne perde pas son emploi.
Alors ce soir, nous vous posons cette question. Est-ce que la colère des profs, mais aussi des jeunes et des parents, vous semble justifiée? Soutenez-vous le mouvement ou au contraire, estimez-vous que le monde de l'enseignement devrait reprendre l'école le plus vite possible et accepter le vote et les réformes qui vont avec?
Vous venez partager avec nous votre point de vue, votre vécu aussi. On vous attend au 070 66 55 44, 070 66 55 44, et également via WhatsApp.
Allô le monde sur WhatsApp 0471 200 500, 0471 200 500.
Et pour échanger avec vous ce soir, deux journalistes qui suivent de près ce dossier. Catherine Hernens, journaliste au Moustique, et puis Dorian Demuyer, journaliste et rédacteur en chef à La Libre Belgique. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Les dérives de l'obstruction, ça c'est le titre de l'édito que vous avez signé ce matin, Dorian Demuyer. On va y venir dans le détail dans un instant, mais d'abord dites-nous, première question, il est pour vous plus que temps que ce décret-programme soit voté ?
À partir du moment où il y a un débat qui a vécu fortement partout dans la rue, dans les écoles, dans les commissions, à un moment donné, il faut passer au vote. C'est surtout ça. Je dis pas que je me réjouis.
Même avec passage en force.
Mais c'est-à-dire que c'est un passage en force. Oui, ils n'ont pas respecté les règles, c'est sûr. Mais les écoles aujourd'hui ne savent pas toujours comment ils vont organiser les premières secondaires dans quelques mois. Donc les directions sont en demande d'en savoir plus. Et quand on leur envoie des circulaires à l'avance, avant même le vote au Parlement, ils disent ah, il y a un déni de démocratie. Ok, oui, c'est pas faux.
Mais le problème, on va rappeler 84 heures qui doivent être présentes entre le moment où c'est voté en commission et le moment où c'est voté en séance plénière. C'est 84 heures, ce délai n'a pas été respecté.
Non, et évidemment, il aurait été bien mieux de le respecter, donc je ne me réjouis pas du tout qu'il n'ait pas été respecté, loin de là. Je pense que les règles internes des parlements, tant au niveau fédéral qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles, devraient peut-être évoluer parce qu'on voit que la flibus devient une tradition. On repousse les décrets programme, que ce soit à l'Arizona ou ici, et c'est pas sain parce qu'on voit que ça soulève encore plus d'inquiétude. Les élèves ne savent pas s'ils vont avoir des examens ou non, maintenant on parle même des élèves qui vont devoir passer le CEB, est-ce qu'il y aura, ou CE1D, est-ce qu'il y aura des examens, ils n'en sont même pas sûrs, alors que normalement c'est censé être obligatoire. Donc il faut à un moment donné pouvoir passer au vote, c'est ça aussi la démocratie. On n'est pas d'accord, on dit pourquoi, puis on passe au vote.
Mais là on n'a pas respecté la démocratie.
On n'a pas respecté une règle. Maintenant la loi va être sans doute votée, où le décret-programme va sans doute être voté cet après-midi, et ce décret-programme ne va pas être mis en cause parce qu'il n'a pas été fait dans la régularité. Et puis je rappelle surtout, et c'est sans doute ça qui m'a convaincu d'écrire cet édito, c'est que ce sont les mêmes qui appellent à un déni de démocratie aujourd'hui, Madame Linard, Monsieur Cazier, qui ont fait quasiment la même chose il y a deux ans avec le décret du paysage, en se mettant avec le PTB, en séance plénière, mettant en avant un texte d'amendement ne permettant pas d'aller devant Conseil d'État et provoquant un vote en pleine nuit. Donc je trouve que c'est un peu hypocrite. En fait, ce que je dénonce ici, c'est pas le fait qu'on ait respecté ou pas respecté les délais de 4 jours, c'est que je ne comprends pas pourquoi on a un tel spectacle quelque part. Ce qu'on voit cet après-midi au Parlement, c'est un show, hein. C'est un show, on parle même pas du fond. On est là en train de faire des grands bruits, en train de dénoncer des choses. Et ça, je regrette que le niveau politique soit arrivé à ce niveau-là, d'autant que les professeurs ont raison de s'inquiéter de plusieurs des mesures. Ce sont pas des mesures réjouissantes, ce sont des mesures très importantes, lourdes, qui sont à la fois pédagogiques, budgétaires et structurelles.
Catherine Hernens, votre analyse de cette séquence politique, du côté du gouvernement, on dit que, bon oui, ok, on n'a pas respecté le délai de 84 heures, mais c'est pour rétablir le calme au plus vite dans les écoles, hein, c'est l'argument, pour que les écoles puissent s'organiser en cette fin d'année. Et puis on estime aussi que c'est pas si grave à partir du moment où ce délai, s'il existe, c'est pour que l'ensemble des parlementaires puissent prendre connaissance du texte. Or, vu le nombre de semaines depuis qu'on en parle, tout le monde connaît déjà ce texte et donc en l'occurrence ce ne serait pas si grave. Quelle est votre réaction à ces arguments ?
Moi je trouve que c'est plus que malheureux ce passage en force. Pourquoi ne pas attendre les 84 heures données ? On a assisté cet après-midi à un débat qui n'a porté que là-dessus. Que là-dessus, alors pas du tout sur le fond, uniquement sur la forme. Et quant à dire que ça va calmer les profs et les mouvements dans les écoles, ça reste vraiment à prouver. Alors l'argument du gouvernement est assez léger. Il faut s'organiser. Qu'est-ce que ça pouvait coûter d'attendre lundi pour que s'organiser plutôt que vendredi demain ? Parce que les circulaires, elles vont pas partir.
On n'était plus à quelques heures près.
On n'était plus à quelques heures près. Et l'opposition était prête à venir dimanche voter en respectant le délai. Et donc, ici, ça rajoute finalement de l'huile sur le feu qui n'en avait pas besoin, et ça fait l'effet inverse de calmer le mouvement parce que le vote serait fait et qu'il n'y aurait plus, du coup, de grogne, parce que ça ne va pas fonctionner comme ça.
Mmh. Pour les partis de gouvernement, y a quand même aussi cette accusation que l'opposition essaye de tirer les marrons du feu en essayant de se rallier les profs. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Oui, ça c'est vrai. Chaque parti d'opposition a fait de la flibuste. Ça c'est vrai, ça je partage l'analyse de Dorian à ce niveau-là. Mais ça n'empêche que ici, ce passage en force est quand même malheureux parce que c'est une première en fait. C'est la première fois qu'on
s'arrange avec les règles, quoi.
Qu'on s'arrange avec les règles, contre les règles. Et comme c'est déjà le bazar dans les rues, dans les écoles, ça n'arrange vraiment rien du tout. Ça rajoute de la confusion.
Ce n'est plus un parlement, c'est le Far West, écrivait ce matin dans son édito Béatrice Delvaux, que vous avez eu l'occasion de côtoyer dans la matinale régulièrement, Dorian Doménius. Elle exagère ?
Non, elle n'exagère pas, parce que je pense qu'il y a de ça. Et quand on voit ce qui se passe au niveau du Parlement de la Chambre, avec l'Arizona, on est dans le même cas de figure. C'est un chaos au sein d'un hémicycle. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Je pense qu'il est plus que temps, vraiment, que les politiques revoient ces règles internes pour éviter, notamment, que le Conseil d'État soit instrumentalisé. On crée un amendement, on l'envoie au Conseil d'État, et hop, on pose le vote. Ben, ça ne va pas. Le Conseil d'État est vraiment là pour s'assurer que le texte soit bien fait, qu'il puisse être amélioré, etc. Et donc, il ne faut pas profiter de ces différents système de protection de notre démocratie, puisque c'est le terme qui est utilisé, pour en abuser. Et c'est ça qui est plus que regrettable.
Mais en même temps, Dorian Doménius, les parlementaires de l'opposition qui ressentent la colère du monde enseignant, qui est quand même largement partagée et qui dépasse les frontières politiques, en l'occurrence, est-ce qu'il n'est pas de leur responsabilité, quelque part, oui, de tenter de faire le tout pour le tout, de retarder ce vote pour que ça ne passe pas, parce que c'est reçu de manière tellement négative par le monde enseignant. Est-ce que ce n'est pas de leur responsabilité de parlementaire ? On pourrait aussi voir les choses comme ça ?
Oui, mais on pourrait voir les choses comme ça, mais si vous postposez de quelques jours, et on est de plus en plus à la fin de l'année, la logique qu'il y a derrière, c'est de dire qu'il faut absolument que ça ne puisse pas passer avant septembre.
En espérant que la majorité plie, en fait.
En espérant que la majorité plie, parce qu'ils estiment, et peut-être pas à tort, que du côté des députés engagés, il y a une fragilité plus importante, et que donc on pourrait peut-être leur faire changer d'avis. Mais c'est un calcul politique. Maintenant, un autre problème, c'est que vous avez un décret-programme où tout est dedans. Parfois, il est intéressant de pouvoir séparer les choses. Parce qu'un des drames de ce conflit aujourd'hui, c'est que tout le monde vient avec d'autres éléments, d'autres arguments. Et si le gouvernement de la Fédération Unie Bruxelles voulait faire des concessions, le mouvement continuerait. Or, il y a des concessions qu'elle ne peut pas faire, par exemple, en termes de budget. Elle doit faire des économies. Et ça, tout le monde est d'accord, même les syndicats. Et les syndicats, ils sont totalement dépassés. Si vous reprenez les grèves d'il y a 30 ans, on connaissait le nom des leaders syndicaux. Aujourd'hui, on ne les connaît plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dépassés par des collectifs locaux ou Mars Attack ou autres.
On en reparlera. Courte réplique, Catherine, et puis on prend
première.
Oui,
peut-être quand même remarquer que la majorité a elle-même organisé le fait que le décret programme la deuxième partie, donc la partie qui est votée aujourd'hui, arrive si tard dans l'année. Et donc, je trouve quand même que ce n'est pas que l'opposition qui a fait de la filibuste. Ce serait un peu court de dire ça. C'est aussi la majorité qui est responsable d'avoir balancé jusqu'à le calendrier.
Bonsoir, Guillaume.
Tout à fait vrai.
Bonsoir.
Vous êtes le premier à intervenir ce soir. Vous êtes enseignant en région bruxelloise et on écoute votre intervention.
Oui, mais je fais suite en fait à ce qui vient d'être dit, puisque ben, moi, donc comme enseignant, ben, j'entends énormément d'inquiétudes, de colère légitime hein, chez mes élèves, mais aussi d'inquiétudes sur les examens. Et c'est vrai qu'ils me disent ben, qu'ils ont des cousins dans d'autres écoles qui n'ont pas d'examen de maths, et puis eux ont un examen de maths, et donc ça crée un chaos. Et je crois que c'est vraiment légitime de s'interroger là-dessus, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que moi, je dirais que la ministre Gattini a une responsabilité écrasante dans ce point-là en particulier, puisque soit, eh bien, effectivement, on organise le calendrier parlementaire pour ne pas faire voter des décrets polémiques en plein milieu des examens, qui est évidemment signe d'un chaos, soit on va encore plus loin, et comme ministre, on prend la responsabilité de supprimer purement et simplement tous les examens dans toutes les écoles, qu'on ne se retrouve pas avec des écoles en province de Liège qui font bloc dans un sens, puis que d'autres écoles qui font bloc dans un autre sens. Il faut bien se mettre à la place des directions qui sont complètement perdues dans tout cela, et je pense que la ministre Gattini apporte une responsabilité vraiment écrasante sur ce point-là, en particulier du chaos qu'il y aura pour les examens.
Merci d'avoir partagé en direct votre point de vue. Guillaume, vous pouvez répondre.
Oui, je vais répondre, parce qu'en fait, la ministre de l'Enseignement de l'Éducation n'est pas responsable des examens dans le secondaire, si ce n'est, évidemment, les fameuses épreuves certificatives, c'est-à-dire CE1D et CESS. Et donc, c'est important de dire qu'en fait, elle ne peut pas intervenir. Donc, c'est les écoles qui décident seules s'ils font des évaluations continues.
Elle sait qu'il y a des examens tous les ans au mois de juin.
Attendez, je ne suis pas du tout en train de défendre le gouvernement. Ils ont tardé et ils ont fait des erreurs. Ils ont changé le pacte d'excellence en fin de course. Et tout ça mène du stress. En plus de ça, il y a des économies. Et puis, il y a les fameux 20 heures qui deviennent 22 heures. Donc, le gouvernement a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est évident. Mais en même temps, il faut que tout le monde se rende compte de la situation dans laquelle on est. Si on décide de ne rien faire, on a un énorme problème en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et la question qui se posera dans quelques années, c'est comment est-ce qu'on paye ? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer que des banques et on va arrêter de payer des professeurs.
Donc ça, c'est un... Il n'y avait pas le choix, autrement dit, pour vous ?
C'est-à-dire qu'il faut faire des économies. On ne peut pas avoir une Fédération Wallonie-Bruxelles qui dépense 15 milliards et qui en touche 13. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas tenable. Or, ici, l'effort qui est demandé, en réalité, il n'est pas suffisant. Hein, parce que des experts avaient dit que tous les professeurs devraient passer à 24 heures. De 20 à 24 et de 22 à 24. Imaginez le tollé que ça aurait fait, quand on voit déjà le tollé quand ça concerne deux années de 20 à 22.
Il n'y avait pas le choix, vu la situation budgétaire, parce que Dorian exprime ce risque qu'à terme, en fait, ce soit des enseignants qu'on ne sait plus payer ou qu'il faut virer.
Alors, il y a effectivement une équation budgétaire qui est très ennuyeuse et qu'il faut résoudre, donc des problèmes. Mais il y avait peut-être d'autres solutions possibles que celles qui sont prises actuellement. Et il faut quand même bien remarquer que les 2 heures en plus, c'est la pointe d'un iceberg. Et ces 2 heures en plus, elles représentent beaucoup de travail, d'abord, mais surtout, elles représentent beaucoup d'irrespect pour le travail des professeurs. Et donc là, on a pris des mesures pour faire des économies, mais globalement, on ne s'est pas dit que les CDI, hein, parce que ça doit encore suivre aussi... Hein,
c'est une réforme à venir.
C'est une réforme à venir, vont coûter très très cher. Et donc c'est incohérent.
Je me permets de rebondir sur ce que vous dites là, parce que il y a deux analyses. On peut dire que voilà, il y a une situation budgétaire telle qu'on doit faire des économies et augmenter l'horaire des profs du secondaire qui était un peu favorisé, en l'occurrence par rapport à ceux qui enseignent aux plus jeunes. C'est peut-être ce qui pèse le moins lourd. Il y a cette analyse-là, c'est factuel. Il y en a beaucoup d'autres et on entend beaucoup ça dans la voix des enseignants aujourd'hui qui disent c'est idéologique. Ce gouvernement prend des mesures idéologiques. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que les réformes proposées sont de nature idéologique ou c'est purement, Dorian de Meus et puis Catherine Hernens?
Non, il y en a. Dire que c'est purement idéologique, ce serait faux. Il y a un aspect budgétaire où il n'y a pas trop le choix, je dirais. Après, ils peuvent faire des choix dedans, mais bon, le Minerval, augmenter le Minerval, ce n'est pas idéologique, étant donné que les jeunes qui sont en difficulté pourront toujours profiter d'un abaissement du prix global. Mais là où il y a un peu d'idéologie, c'est quand on change une partie du pacte, qui était un accord où tous les acteurs de l'école linéaire, mais où le redoublement, la question du redoublement, quand Valérie Glatini dit que le redoublement, c'est quand même un élément important parce que c'est une école un peu plus élitiste, évidemment qu'on est plus dans l'idéologie, parce que dans le pacte, justement, on dit il ne faut pas redoubler parce que le redoublement n'aide pas.
D'autant que le redoublement coûte cher. Et donc, si on prend l'argument budgétaire...
Absolument. Donc là aussi, il y a un élément. Moi, je pense que le CDIE, comme on l'appelle, je ne suis pas persuadé qu'ils pourront le faire. C'est un peu comme la réforme fiscale annoncée par l'Arizona. Je ne suis pas sûr qu'ils auront les moyens un jour de se pencher sur ce type de solution.
Catherine Hernens, est-ce que ce sont des mesures comptables ou des mesures idéologiques ?
Alors, je pense que c'est les deux, mais au niveau comptabilité, c'est ce que je disais, hein, si on fait le CDI, il coûte très cher, et donc là, on se dit que c'est pas cohérent. Et c'est l'incohérence que relèvent les profs, ils sont quand même suffisamment malins pour s'en rendre compte, et qui soulèvent la colère. Hein, et donc... Par contre, qu'il faille faire des économies, c'est une évidence. Ça, il faut pas le nier. Le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ben c'est, on sait, il est handicapé par le fait que on ne relève pas d'impôts, donc on ne sait pas jouer sur quoi que ce soit.
D'après vous, les économies auraient dû se faire à quel niveau ?
Alors, elles se font un peu partout. Il faut quand même peut-être le rappeler aussi aux professeurs. Il n'y a pas que l'enseignement qui va éponger. La RTBF est d'ailleurs aussi dans la balance et tous les acteurs.
Et le monde de la culture. Ouais.
Et le monde de la culture. Donc tout le monde va essuyer les plâtres.
Hein. Et la petite enfance aussi.
Nicole est au bout du fil. Bonsoir Nicole.
Bonsoir.
C'est
est-ce
à
que vous m'entendez ?
Absolument, oui. Allez-y.
Oui, je me suis permis de vous écrire parce que j'ai écouté toute la série de podcasts d'Arnaud Reussen cette semaine.
Les clés.
Et moi, j'étais très intéressée parce qu'on parle toujours des deux heures à prester en plus pour les professeurs dans le supérieur. Et je pense que ça, c'est comme on vient de le dire, c'est un peu la pointe de l'iceberg. En écoutant tous ces professeurs, je voyais bien que ces deux heures, évidemment, ça va poser des problèmes à tous les enseignants, les jeunes qui vont devoir aller grappiller des heures dans des écoles différentes. Et alors, je téléphone de la province du Luxembourg. Je ne vous dis pas les distances que certains vont devoir exécuter. Ouais. Mais j'ai aussi une autre question, enfin une interpellation plutôt au niveau de la ministre Glatini. Parce que lors de son entretien hier, je pense que c'était dans les clés, elle a précisé que l'équipe gouvernementale actuelle avait un programme de gouvernement différent de l'équipe précédente et qu'il devait le respecter. Et donc, la réforme de l'enseignement fait partie de ce nouveau programme. Alors, est-ce que cela veut dire que l'avenir de l'enseignement et surtout l'avenir des professeurs et des élèves est soumis au changement de majorité au niveau du gouvernement wallon ? Et moi, en tant que citoyenne, évidemment, ça me pose un problème. Ma préoccupation en tant que grand-mère et citoyenne, j'ai quand même l'impression que le politique n'écoute pas parfois assez les citoyens et que je me demande si la mise en œuvre du programme de ce gouvernement a plus d'importance que l'avenir de l'enseignement.
Merci. Merci à vous pour cette réflexion. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'avec le pacte d'excellence, ça avait été la volonté, hein, précisément, de mettre tous les acteurs autour de la table, pas uniquement ceux de la majorité au moment où ça a été décidé, pour qu'il y ait une vision à très long terme et que, quelle que soit la majorité au pouvoir, il y ait des guidelines et qu'on ne transige pas et qu'on ne fasse pas demi-tour. Ici, on fait quand même un peu demi-tour.
On fait demi-tour, on détricote le pacte d'excellence, ça va de soi. Il y a un côté idéologique derrière, on l'a dit tantôt, Valérie Glatini n'était pas pour. Donc ça, évidemment, ça complique totalement les choses, notamment parce que ce pacte d'excellence entre maintenant en première année. Mais il faut savoir aussi que tous les auteurs du pacte d'excellence savaient très très bien que les difficultés allaient arriver une fois une entrée en secondaire, c'est-à-dire l'année prochaine, et pire qu'en 2028-2029, il fallait peut-être sans doute virer beaucoup plus de professeurs parce que la prolongation du tronc commun allait poser beaucoup plus de questions à des professeurs sur leur avenir.
Oui, et on ça aussi, dans le dur, en fait.
Et ça aussi, Valérie Glatini, en tant que politique, a voulu éviter parce que ça veut dire qu'à la veille des élections, elle allait peut-être devoir prendre les mesures les plus douloureuses. Et en les prenant maintenant, et en sachant qu'elles sont douloureuses, elle évite quelque part ça. Donc là aussi, il y a un aspect évidemment politique. Mais ça, les autres partis qui sont aujourd'hui autour de la table, donc Écolo et PS, le savaient aussi. Hein.
Message de Xavier sur WhatsApp, il nous dit, et il n'est pas le seul d'ailleurs ce soir, que l'un des problèmes, c'est l'incapacité de dialoguer de la part de Valérie Glatini. Catherine Hernandez. Ce que dit aussi le monde syndical, notamment.
Oui, alors ce que dit par exemple quelqu'un comme Régis Dogne, qui a beaucoup pratiqué, et en 50 ans, il dit que c'est le pire gouvernement au niveau de la concertation. C'est-à-dire que les concertations se font pas en... Ils se font après, quoi. Ils se font pas en amont, ils se font en aval. Et donc, on vient... La ministre est venue avec ses réformes, avec ce qu'elle voulait faire, et puis elle a concerté. Elle n'a pas concerté avant. Et ça, ce n'est pas une habitude dans le monde, dans l'enseignement, surtout avec le pacte d'excellence qui avait vraiment réuni tout le monde, où il y avait vraiment un mouvement de fond qui était important au niveau de la concertation. Et donc ici, elle est quand même vraiment pas dans les petits papiers des syndicats pour cette raison-là.
Est-ce que c'est une nouvelle manière de faire de la politique?
Oui, je trouve quand même plus nuancé, si je peux me permettre, parce que on a entendu Valérie Glétigny au début de cet échange parler du gel des réaffectations. Donc ceux qui disent aujourd'hui à cause des 22 heures, je vais perdre mon job, c'est totalement faux. Hein. Il y a un gel de réaffectation qui est prévu pour ceux qui risquent de perdre leur job l'année prochaine. Et il faut aussi savoir qu'il y a une pénurie d'enseignement qui est très importante, ça tout le monde le sait. Mais aussi, il n'y a pas de nouveau diplomation l'année prochaine.
Et donc, mais est-ce qu'il y a le dialogue vraiment?
Ah ben, je ne sais pas s'il y a dialogue vraiment. Elle dit que oui. Je pense que les syndicats
disent que non.
J'ai dit tantôt, c'est un peu compliqué. Ils sont débordés. Vous savez, quand vous lancez un préavis de grève sur un mois et demi, c'est bien la preuve que vous tenez plus votre base et que donc vous voulez un peu protéger et garder.
Vous dites que les syndicats sont débordés par des mouvements comme Mars Attack, etc.
Mais c'est évident. C'est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lancez mi-mai un préavis de grève jusqu'à 10 juillet, je pense, c'est qu'il y a un souci. Et je vous disais tantôt, on ne connaît pas, nous-mêmes, journalistes, on ne connaît pas toujours les chefs des syndicats des uns et des autres parce qu'ils sont beaucoup moins à la tête. En fait, et c'est dramatique dans cette situation actuelle, c'est que les intermédiaires qui doivent être les interlocuteurs sont en train de perdre pied.
Mmh. C'est mais
un problème
pas
pour
quand
les
même
politiques aussi, hein, notamment pour...
Dorian Demeys, une nouvelle manière de faire de ces majorités MR engagé, et on voit au fédéral qu'il y a aussi beaucoup de contestations sur la manière de faire et de ne pas concerter. Les partenaires sociaux se sont beaucoup plaints dernièrement, notamment sur la question de l'indexation, où on n'a pas écouté les uns et les autres.
Ils sont quand même écoutés de temps en temps. Hein. Je parlais du gel de réaffectation, il y a quand même des éléments parfois qui sont entendus, mais c'est sûr que les efforts budgétaires qui sont attendus, le nombre des réformes fait qu'il faut avancer. Mais vous avez aussi des ministres qui n'avancent pas dans les réformes, justement, parce qu'ils sont en train de négocier beaucoup. On pense au gouvernement wallon, qui sincèrement a aujourd'hui un bilan qui est assez maigre. Et donc c'est la preuve aussi qu'ils sont un peu pris entre ces différentes tensions qu'on peut avoir avec les syndicats, avec des associations par exemple.
Une dernière question avec vous, Catherine Hernens. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose qui est cassé là, aujourd'hui, et que ça dépassera le vote de ce soir ?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est cassé, effectivement, et ça dépassera le vote. Il faut savoir que les enseignants sont pilonnés un peu de toutes parts. Hein. Il n'y a pas que la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'ils ont dans le collimateur. Le fédéral, la réforme des pensions, il y a quand même beaucoup de choses qui leur tombent sur les épaules. Et donc, je pense que ça ne va pas se calmer.
Un message encore de Mathieu. S'il y a bien un secteur qu'il faut refinancer, c'est bien celui de l'enseignement. L'avenir de notre société en dépend. En revanche, j'en ai complètement marre, dit-il, des professeurs qui se plaignent tout le temps alors qu'ils ont des horaires plus légers que dans le privé et surtout énormément de vacances. C'est ce que dit Mathieu. Merci à tous les deux.
Les profs, ils répondent quoi à ça? Mais venez dans le monde de l'enseignement et essayez si c'est si super.
Ils vont nous appeler en masse. Merci.
On a un enseignement qui part tête de pipe d'élèves et le plus cher de l'OCDE. Hein. Donc dire qu'il n'y a pas assez d'argent, je pense que l'argent n'est pas toujours bien pris, notamment il y a trop d'options dans les écoles et ce genre de choses.
Clap de fin pour ce Allô le Monde. Merci à tous les deux. 18h41.